non, c'est pas possible.
Hein?
Quoi? Regarde-moi ces cons.
Où ça, les cons?
Là! Tiens, un toi. Je vais leur dire que c'est des cons. Ils doivent pas le savoir.
Mais foutez-leur la paix. Ils font de mal à personne.
Mais je m'en fous. C'est pas possible d'être aussi con.
CO2, mon amour.
Oh, on est en République. S'ils veulent bouffer sur le bord de la route, c'est leur droit. Tout, on ne peut pas aller au restaurant.
Mais je leur demande pas d'aller au restaurant. Et je suis sûr qu'à 20 mètres de là, il y a un prix, de l'herbe et tout ce qu'il faut pour pique-niquer. Eh ben non, faut qu'ils s'installent au bord de la route.
Denis Chessou.
C'est des cons, je te dis.
Mais non, on se calme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est au de mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Julien Michel et Théo Gomard à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Alors, ça commence par une gentille dépression tranquille du côté du Cap-Vert, au son de la musique de Césaria Evora. La gamine avale de la chaleur et remplit son réservoir d'énergie. Ah, une eau à 29 degrés et des vents homogènes. Ça, c'est un bon début pour se rêver plus tard en cyclone, en bête de Seine. La dépression passe très vite sa maîtrise de tempête tropicale, puis son diplôme d'ouragan, presque aussi grand que la France, et termine en lessiveuse, broyeuse, concasseuse, en Madame Irma, diseuse de mauvaises aventures. Mais tout va bien, les enfants, quand le sage montre le doigt... Quand il montre du doigt la lune, eh bien c'est le doigt que l'on coupe. La planète en folie, gorgée de CO2 sans véritable amour, tourne comme l'ouragan à la vitesse d'un TGV porté par ses mauvais vents. Alors beau bateau en vrac, tous empilés, hotspot à la fois du Gotha mondialisé et de la pauvreté en bord de mer. Un jour les cyclones s'attaqueront-ils aux paradis fiscaux? Alors pensez bien sûr, aide et don vers ceux qui souffrent aujourd'hui. L'homme n'a pas de joystick pour détourner les monstres du ciel qu'on nomme catastrophes naturelles et qu'il a en partie, je dis bien en partie, engendrée avec sa folie consommatrice, réchauffeuse de désir. Mais ce diable serait-il un doux zéphyr comparé à la tempête de neutrons dissuasive et rien de plus, heureusement aujourd'hui, concoctée par nos docteurs Follamour, Donald contre Monsieur Kim. Vanitas, vanitas, nous disait l'Ecclésiaste. Et comme toujours, vous n'y croyez pas au réchauffement climatique d'origine humaine, comme pour les pesticides, et pas plus non plus pour les abattoirs. Ah, alors ça, les abattoirs, c'est aussi l'actu. Abattoir qui, à l'abri de nos regards, qui ne veulent pas voir, prépare nos viandes, nos milliards de poulets misérables. Malheur aux fouineurs. Ne luttez pas contre le vent sous peine d'être sérieusement déplumé, non. Amis de la justice, vous rêviez d'un monde en ordre. Rentrez chez vous à l'abri, ne bousculez pas le désordre des choses, on vous le fera payer. Cette semaine, le tribunal de Versailles a condamné deux lanceurs d'alerte de L214, défenseurs, donc on le sait, de la cause animale, pour violation de domicile et atteinte à la vie privée, pour avoir pris des risques et osé révéler ce que certains savaient évidemment sans mot dire. Caméra posée clandestinement dans l'abattoir de Dourdan pour filmer une cochon réalité étourdie dans un puits de CO2 avant d'être saignée. 15 000 euros dont 10 000 avec sursis. Alors, révolutionnaire en peau de lapin, vous qui renversiez les bastilles, reprenez vos pantoufles, les affaires roulent. Il faut qu'elles roulent et qu'elles amassent parfois de sales mousses. Indignez-vous, disait l'autre. Mais qui déjà disait ça? Alors, mille au sujet, je vous l'avais dit, donc au menu de cette émission, il y aura en cette période de rentrée littéraire un sujet, livre et environnement, et puis on va voir le côté face des piles, c'est amusant, donc les piles qui avalent nos appareils. Anthony Cointe, entre cuisinier, emballant et ambulant, pointera les produits de saison, et puis donc une grappe d'actualité avec notre chroniqueur de luxe, enfin au moins scintillant et brillant, cher Frédéric Danhé, bonjour.
Bonjour Denis Chessou.
Voilà, donc alors avant notre sujet Corée du Nord et écologie, on va donc parler avec vous donc de Irma. Alors là, qu'est-ce que l'on peut dire? Évidemment que si on regarde les chiffres, il y a en général 80 cyclones, on va dire, tous les ans. Donc c'est pas là, on va dire, la nouveauté, c'était la force de cette affaire.
C'est ça, oui. Il faut pas s'imaginer que tout ça est une affaire de changement, enfin, est lié au changement climatique. Non, il y a 80 cyclones tous les ans, vous l'avez dit. Il y en a 8 à 9 qui se suivent les uns derrière les autres entre juin et septembre. Donc de voir 3 cyclones qui se suivent, comme on l'a vu cet été, ça n'a rien d'extravagant. Ce qui est plutôt étrange et qui, non pas inquiète, mais en tout cas surprend les météorologues, c'est la force, effectivement. C'est-à-dire, c'est l'énergie mise en jeu, qui est sans doute liée à la hausse brutale des températures de la surface de l'Atlantique. Faut jamais oublier que, vous l'avez dit, ces ouragans naissent dans le Cap-Vert, traversent l'Atlantique, se gorgent d'autant plus d'énergie que, premièrement, l'eau de la surface de l'Atlantique est chaude et qu'en plus, en altitude, l'air est plus frais. Ça crée des vents de cisaillement, ça crée un tourbillon et boum, on en arrive. En arrivant aux Antilles, Antilles, on en arrive à un cyclone. Donc, rien à voir avec le changement climatique.
Pas quand même. Oui. Avec le réchauffement, c'est à partir du moment où ce cyclone va prendre davantage d'énergie, où l'eau qui est à 26 degrés passe à 29 degrés, peut y avoir aussi un rapport.
La probabilité est forte. C'est surtout ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ces cyclones, l'énergie de ces cyclones s'inscrit parfaitement dans les modèles climatiques. Autrement dit, ils ressemblent fortement à ce que nous prédisent les climatologues pour les années à venir, c'est-à-dire un maximum d'ouragans de niveau 5 et non plus comme avant de niveau 2, 3, 4. On a de plus en plus de niveau 5, c'est-à-dire les plus énergétiques.
On a une information donc tout à fait récente tout à l'heure du côté donc de Saint-Martin par un de nos amis donc interposé. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que l'on peut dire? On sait que évidemment ce sont des îles, donc c'est tout plat. Je veux dire qu'on est entre 1 mètre et 3 mètres à peu près de hauteur. Lorsque l'on est face à des vagues de 12 mètres, c'est quand même un peu compliqué de faire quelque chose. Mais quand même, qu'est-ce que l'on constate?
On peut pas faire grand-chose, ça c'est sûr. On constate plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut rien faire face à ce type d'événement. La deuxième, c'est qu'il faut jamais oublier l'après, c'est-à-dire les inondations. Et face aux inondations, on est tout aussi démunis que face à un cyclone. La troisième chose, c'est que manifestement, même si rien ne résiste vraiment, il y a des choses qui résistent un peu plus. Une construction en béton avec un toit aux normes anticycloniques génère moins de dégâts et surtout est moins dangereuse pour ses habitants. Ceux qui tuent, hein, ce sont les maisons en tôle, ce sont les maisons de briques et de broc, hein, les tôles, les bouts de bois s'envolent, coupent les têtes. Et c'est ce qui se passe dans les îles pauvres, hein, les îles en gros des Antilles anglophones. On a beaucoup plus de dégâts et notamment beaucoup plus de dégâts humains, ainsi que dans les quartiers pauvres des villes américaines comme à Houston, le quartier de Brayburn. Quand c'est mal construit, ça s'envole, ça disparaît et parce que ça tourbillonne avec des matières contondantes, ça tue, ce qui n'est pas le cas dans nos îles. Donc, vive l'État français qui a encore les moyens de retenir ces îles.
Et alors, en ce qui concerne, on va dire, les mangroves, là, c'est pas le cas en ce qui concerne non, donc ces îles-là. Mais je veux dire que lorsque l'on voit ça du côté donc du Texas ou ailleurs, les réassureurs, ce sont, on l'a déjà dit dans cette émission, ouais, mais se sont quand même bien rendu compte que lorsqu'on en a des mangroves, lorsque l'on a des marais salants ou des marais tout court, c'est...
Ça bouffe une partie de l'énergie de la houle, de l'énergie des vents. Mieux vaut que ce soit une mangrove qui disparaisse plutôt que des maisons. Et en fait, la réflexion qu'ont les Américains, la réflexion qu'ont les Iliens, la réflexion qu'ont les réassureurs, c'est ça. C'est si on laisse les infrastructures naturelles, comme ils les appellent aujourd'hui, sur les côtes plutôt que de mettre des routes et des pavillons, eh bien on aura nettement moins de dégâts et les côtes perdureront peut-être un peu plus.
Si nous allons en Touraine, tenez l'actualité, celle-là elle est plus joyeuse.
Il n'y a pas de cyclone.
C'est au château de la Bourdaisière, écoutez.
C'est sucré. Une petite pointe d'acidité, on va parler comme les œnologues. Ces phrases qui sont... Il faut insupportable. C'est long en bouche. Mais en tout cas, c'est beau. Ça s'appelle une tomate.
Et c'est pas insipide.
Et voilà. C'est pas insipide. Et c'est plein de vie, c'est plein de chair, c'est plein d'histoires en même temps.
Alors ce week-end, c'est donc la fête de la tomate qui se trouve au château de la Bourdaisière. Donc nous sommes dans le DE 37, ou être l'Indre, ou l'Indre-et-Loire peut-être. J'ai une faiblesse là, tiens. Louis-Albert de Breuil, donc qui est passé à côté de Tours, c'est à Mont-Louis-sur-Loire en tout cas. C'est Louis-Albert de Breuil, donc qui est à la tête de ce conservatoire national des tomates, qui a 700 variétés. Donc c'est ce week-end. Et puis on y reviendra, parce que là on va avoir un sujet tout à fait intéressant aussi avec la mondialisation de la tomate. Ce sera la semaine prochaine, je vous le dis. Ce sera la fête de l'humanité. Donc on vous attend à la fête de l'humain à la Courneuve. Ouais, on va faire l'émission donc en direct là-bas. Mais sinon, ce week-end, si vous voulez, après c'est au de mon amour, hop, château de la Bourdaisière, Louis-Albert de Breuil. Et donc toutes ces tomates. Nous avons évidemment d'autres sujets. On va s'intéresser à l'empreinte écologique des livres. Mais une belle empreinte musicale signée qui vous le dites peut-être.
Yeah.
Oh oui, une petite pointe de nostalgie comme ça avec Laurent Voulzy et Nina Miranda sur France Inter, choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice. Spiritus of Samba. Alors, il paraît qu'il a enregistré ça sur la plage de Rio, hein. Il aurait pu aller à Malo-les-Bains dans le Nord. Bah non, pas du tout. Il nous a fait ça, ça plaisir. Bah, ça correspondait un petit peu mieux quand même à l'état d'esprit, oui.
Il en plus au bois et les haies sont coupées. Car ici on ne pense qu'à la rentabilité. Oui, il est assez.
Entrez dans la danse, oui. Voyez comme on danse. Sautez, dansez, tronçonnez qui vous voudrez.
France Inter, CO2 mon ami, avec Denis Chessoux.
Eh ben oui, on va tronçonner quelques arts parce que c'est quand même la rentrée littéraire un petit peu partout. Donc on va s'intéresser à l'empreinte écologique aujourd'hui des livres avec vous, Marion Feige-Muller, chargée d'études dans une coopérative qui s'appelle BASIC et qui mène donc des études sur les filières. Alors BASIC signifie Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. Alors vous êtes concentré sur les livres, on va dire, imprimés en noir, ce que vous appelez le noir, vous, bon, par opposition aux livres, on va dire, en couleur. Donc on va s'intéresser aux romans, aux livres de poche, etc. Bon, premier constat, ce que l'on sait, c'est qu'on lit moins, donc bah, les ventes aussi ont baissé, donc ça c'est de l'impact directement sur l'emploi. On ne parle pas d'Amazon qui fait aussi du tort aux petits libraires, enfin aux libraires, on ne peut pas dire petits, les libraires. Donc quel coût environnemental et social derrière un livre? Alors il paraît que sur chaque roman acheté, il y a 75 centimes qui part à la charge de la société. Alors on va dire, je suis un livre, je suis fabriqué à partir de quel arbre, Marion Feige-Muller?
L'arbre majoritaire aujourd'hui, en tout cas dans la filière française, c'est bien l'eucalyptus. On s'est rendu compte en retraçant les flux de pâte à papier et de papier sur ce livre noir qu'on était de moins en moins sur du bois français avec des bois classiques que peuvent être les feuillus tels le hêtre, le charme. Aujourd'hui, on est majoritairement sur de l'eucalyptus qui peut venir soit du Portugal et qui serait importé en France, on va dire, sous forme de papier. Et sous forme de pâte à papier, ce serait l'eucalyptus du Brésil. Au Brésil, on a des grandes plantations d'eucalyptus qui sont à côté et dont les usines de pâte à papier sont propriétaires et vont cultiver intensivement un eucalyptus qui aura été hybridé ou même voire cloné
oui.
Et qui aujourd'hui demande énormément d'eau de par son intensivité.
Donc ça se fait au détriment de la biodiversité, des paysans locaux et donc de la ressource en eau.
Tout à fait. C'est-à-dire que là où on va avoir un développement des plantations d'eucalyptus, on va avoir déjà des eucalyptus qui vont prélever énormément d'eau, donc ce qui va quelque part priver d'autant des terres agricoles avoisinantes de cette eau. On va avoir aussi une pollution de l'eau avec tous les intrants chimiques qu'on va mettre sur l'eucalyptus pour assurer sa pousse la plus rapide possible. En plantant de l'eucalyptus, on prend sur des terres agricoles. Ça veut dire qu'on crée aussi sur un territoire, les conditions de l'insécurité alimentaire pour les populations qui vont, si elles ne travaillent pas dans l'eucalyptus, vont partir et vont notamment monter vers le nord du Brésil sur le Fromponier pour prendre sur l'Amazonie et reprendre des terres agricoles.
Alors nous avons l'eucalyptus, on peut aussi avoir l'acacia, donc on a bien compris qu'il s'agissait de champs de monoculture extrêmement intensifs. Ensuite, la pâte, elle est transformée où ?
C'est là la grande différence et la grande évolution du marché de la pâte à papier. Avant, on avait une forme d'unité géographique. Je pense notamment au modèle historique suédois où on avait une unité géographique entre la forêt qui était exploitée, l'usine de pâte à papier, l'usine de papier, voire même l'imprimerie après qui allait imprimer le livre. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est complètement éclaté, avec par exemple le Brésil, avec des usines de pâte à papier qui vont avoir leur plantation d'eucalyptus, vont faire de la pâte à papier, qu'on va appeler pâte à papier marchande, qui va être vendue sur le marché international, acheminée par bateau jusqu'en Europe, où là, les usines de papier vont utiliser la pâte à papier, reformer la feuille, et ensuite livrer aux imprimeurs pour l'impression des livres.
On est en pleine mondialisation et financiarisation du papier et du livre, hein, aujourd'hui.
C'est exactement les deux évolutions qu'on voit sur les deux bouts de la chaîne. D'un côté, le papier qui s'est mondialisé, internationalisé, des acteurs émergents qui prennent de plus en plus d'importance, avec cette montée en puissance de la pâte à papier comme produit commoditisé qui s'échange sur le marché international, et de l'autre, une édition avec des grandes maisons d'édition qui, depuis les années 1980, sont rentrées à l'intérieur de grands groupes mondialisés qui n'ont pas forcément que l'édition dans leur portefeuille, j'ai envie de dire. Et ça a véritablement bouleversé le milieu de l'édition et le rapport de l'éditeur à son livre.
Alors, l'arbre, la pâte à papier, ensuite donc il y a l'imprimeur. Donc là aussi, on a encore beaucoup d'imprimeurs chez nous ?
On a encore à peu près un peu plus de la moitié des livres je parle bien des livres qui sont produits par les éditeurs français, qui sont imprimés en France. Mais sur l'autre moitié, on est de plus en plus sur une délocalisation. Je parlais des pays d'Europe de l'Est en ce qui concerne le roman noir, donc le poche par exemple, mais sur d'autres livres, par exemple les livres jeunesse, on va être sur l'impression en Chine. Et évidemment, cela a une conséquence sur le secteur de l'impression en France, où on a à peu près perdu 20% des effectifs salariés de l'imprimerie sur les 10 dernières années.
Alors une chose qui est tout à fait intéressante, c'est pourquoi on cherche à imprimer des très grosses quantités alors qu'on sait qu'il y a un quart, c'est énorme, un quart donc des livres qui vont au rebut sans jamais avoir été lus.
Il y a deux principales raisons. La première déjà, c'est une logique des maisons d'édition qui veut que pour réussir à vendre un maximum, on va essayer d'occuper le maximum d'espace dans les points de vente. En plus, on a un réseau de points de vente qui est très diversifié encore en France. On a un réseau de librairies qui est très important comparé aux autres pays européens. Et donc, il y a un enjeu pour les éditeurs d'assurer que leur livre est en quantité suffisante partout sur le territoire en même temps. De l'autre aussi, je reviens à cette logique de financiarisation dont je parlais, on a changé le rapport au livre. On va penser le livre maintenant comme étant un objet qui doit être rentable et chaque livre doit être rentable. Ce qui va quelque part pousser les éditeurs parfois à avoir envie de surproduire pour baisser le coût de production du livre. Si on imprime 10 000 exemplaires au lieu de 5 000 exemplaires, le coût de fabrication du livre va être moindre, la marge projetée de l'éditeur va être plus importante et donc on va quelque part, j'ai envie de dire presque fictivement, pouvoir augmenter la marge de l'éditeur.
C'est-à-dire qu'on a intérêt à faire du rebut, à avoir un quart donc de ces livres qui vont partir, on va dire, au pilon, qui peut-être seront recyclés, heureusement, mais c'est donc plus rentable, entre guillemets. Enfin, c'est de la folie, ça.
La question de la rentabilité est vraiment à poser parce que d'un côté, effectivement, quand on décide de tirer le nombre d'exemplaires, on se dit on va augmenter la marge. Après, ce qui est pointé aujourd'hui du doigt par les gens du secteur de l'édition, c'est qu'on ne reboucle justement pas forcément avec le coût de l'aller-retour de la distribution et de la mise au pilon. Donc, quelque part, si on reprenait le coût que coûte déjà l'aller-retour de la distribution, le stockage éventuel avant la mise au pilon, peut-être que la rentabilité du livre n'est pas si intéressante que ça à augmenter de 20% le tirage.
Alors, lorsque l'on voit tout ce voyage, on se doute bien qu'en matière de gaz à effet de serre, le bilan ne doit pas être terrible non plus.
Non, effectivement, c'est le principal impact sur toute la filière. La principale raison en est que, comme je disais, on est sur une filière qui est internationalisée, beaucoup d'acteurs, donc ça veut dire aussi beaucoup de transport, donc forcément beaucoup de CO2 qui est émis. Les usines de pâte à papier dégagent de l'émission de CO2, le transport par bateau est extrêmement émetteur aussi de CO2, et après le transport camion est encore plus avec cette logique de surproduction et d'aller-retour qui quelque part se font pour rien, on émet encore plus de CO2.
Alors heureusement vous avez pensé aux différentes alternatives, vous avez la plantation de bois qui peut être certifiée, vous avez les fibres qui peuvent être recyclées, vous avez la liseuse, est-ce que ce sont de véritables alternatives tout ça?
Sur les certifications, on s'est centré sur les certifications qui sont au Brésil, majoritairement le FSC qui est la certification de la plupart des plantations au Brésil. Ce dont on se rend compte, c'est que on a aujourd'hui un manque de données cruciales sur justement est-ce qu'on arrive à avoir un impact avec cette certification sur les problèmes de pollution de l'eau, de conditions de travail dans les plantations. Il manque des études indépendantes qui puissent montrer ces impacts. En plus, au Brésil, on a un gros problème sur le commerce illégal de bois. Interpol estime qu'il y a à peu près 90% du bois au Brésil qui est utilisé dans l'industrie du bois, dont l'usine de pâte à papier, qui serait de source illégale. Donc là, on a un problème aussi, et c'est un point qui ne peut pas être regardé aujourd'hui par les certifications. Sur les autres alternatives que vous mentionnez, par exemple le papier recyclé, le principal problème aujourd'hui, c'est qu'on a un système du recyclage en France qui est sous-mécanisé et très hétérogène. Déjà, les consignes de tri et de collecte sont totalement hétérogènes, sont à charge de la collectivité territoriale.
On doit recycler 50 à 55%, je crois, de papier
en
France.
Tout à fait. Ça, c'est pour le papier de façon générale. Mais si on regarde le papier du livre, on se rend compte qu'on est à un taux encore plus bas. Pourquoi ? Parce que simplement, le papier du livre est un papier dit de haute sorte, de sorte blanche, et qui aujourd'hui est capté par le papier d'hygiène dans son recyclage. Et finalement, il n'y a que 10% de fibres recyclées qui repartent dans les livres.
Ah oui, d'accord. Non, ça, sinon, c'est du PQ.
Concrètement, oui, sinon, c'est du PQ.
Bon, donc, on a quand même toujours envie de lire les uns et les autres. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, ça veut dire aussi qu'autour de la table, il faudrait quand même que les grands acteurs, donc, peut-être changent aussi de modèle. Et là, c'est compliqué.
Pour nous, il y a un enjeu de filière durable du livre, où on aurait peut-être déjà une reterritorialisation d'une partie de l'exploitation forestière et de la production de pâte à papier et de papier, mais qui serait aussi une reterritorialisation de l'impression, avec aussi derrière l'idée que peut-être qu'il faudrait arrêter de surproduire des livres et être un niveau de tirage plus proche des niveaux de vente qu'on aura par la suite.
Alors je tiens aussi à préciser que vous avez quand même certains éditeurs jeunesse que je connais bien, comme les éditions de la Rue du Monde et d'autres qui se sont regroupés pour faire du Made in France aussi, de faire attention aussi à l'impression parce que l'encre c'est aussi quelque chose. Alors c'est pas le côté arrêter de lire, hein, surtout pas, c'est pas ça le problème, c'est juste simplement d'avoir conscience de tout cela. Bon, il y a juste une petite inexactitude aussi, Frédéric, c'est vrai que le transport par bateau, oui bien sûr, émet des gaz à effet de serre, mais il n'est pas forcément extrêmement polluant par rapport à la quantité produite.
C'est même pas grand chose dans le bilan. Par contre, et ça elle en parle pas, c'est le transport du dernier kilomètre, c'est le transport du camion qui va livrer la librairie, c'est la personne en voiture qui va à sa librairie de centre commercial, et puis c'est la livraison à domicile, à 24 heures garantie par Amazon et autres. C'est ça en fait qui augmente considérablement le bilan carbone. Petite parenthèse, faut comparer ça, ce bilan-là, avec le bilan du livre numérique, de l'édition numérique, qui est bien plus catastrophique.
Bien, d'accord. Et même les bouquins que vous faites, c'est-à-dire Ces sons de ruine, notre sol,
ils sont parfaits.
Faites votre compost vous-même, etc. Tout ce que je voulais. Non, c'est le même bilan.
C'est le même bilan. Faut pas en mettre sans casser des œufs. Malheureusement.
Je comprends très bien. Saviez-vous que c'était la troisième journée européenne du recyclage des piles?
Mais bien sûr, je ne pense qu'à ça.
Pensez qu'à ça. Bâtonnez aujourd'hui.
Tu veux des piles? Ouais, je vais te trouver ça. J'en ai des super chez Philips. À moins qu'il m'en reste plus. Attends, à moins que chez Itasoni, ils les fassent encore. Dans ce cas-là, il faudra l'adaptateur MK3 que tu branches sur le jack-din. Attends deux secondes. Quoi? Les piles Yuzi Pousse? Ouais, deuxième tiroir, tu les trouveras. Tu disais, ouais, tu veux des piles? T'as déjà essayé des piles plates 1,7 à double connexion triphasée de chez Osterwood? Parce qu'elles sont Oui, vas-y, passe, je t'en prie, ouais. Tu veux des piles? Dis donc, si on essayait les piles polaires WDK de chez Schwarzpunk. Brouille-toi, tu fais chier? Tu fais chier, c'est japonais, ça, non?
C'est toujours un régal, ça, les inconnus. Bah, bien sûr, c'est une vingtaine d'années. Et alors, ça fonctionne toujours. Donc, il s'agissait de trouver un titre pour cette petite séquence donc d'actualité. La force obscure du côté face des piles. Ça,
c'est bien, Denis.
On va faire deux fois quand même. D'accord. Alors, Stéphane Chorlet est directeur commercial chez Valdi, qui est une filiale d'Eramet. Alors, Eramet, c'est quand même un gros groupe minier. La France détient près de 26% des parts. Qu'est-ce que l'on fait chez Valdi? Bien, du recyclage de batteries, de filtres à particules de voitures, d'oxyde métallique et donc de piles. Alors quand même, sacré gisement, 1,3 milliard de piles et de petites batteries commercialisées en France en 2016, et on en recycle 45%, Stéphane Chorlet, c'est peut-être un peu faiblard, non?
Alors, le chiffre en lui-même, oui, mais ce qu'il faut voir, c'est les autres chiffres surtout, les 25% qui sont jetés actuellement. Sachez qu'une pile jetée, c'est 9000 ans pour voir qu'elle soit complètement détruite.
Oh, c'est bien, 9000 ans.
Donc ça vous fait une centaine de générations, ça vous laisse quand même pas mal de temps. D'accord. Et c'est surtout la pollution tout autour de ces piles, sur l'eau, sur la terre.
10 mètres cubes de terre polluée lorsqu'on balance à peu près une pile. Et puis l'eau, ça va être aussi...
L'eau, c'est dans l'ordre de 400 mètres cubes, donc c'est quand même des conséquences énormes. Et je vais peut-être vous poser une question. Que faites-vous de vos piles une fois qu'elles sont usées?
Moi, je les dépose dans une grande surface, dans un bac. Voilà.
Donc, vous êtes exemplaire, parce que 35% des piles restent encore à l'intérieur des maisons, dans les tiroirs, dans les sacs plastiques, dans les bouteilles. On voit des choses extraordinaires, mais elles ne sont pas recyclées.
Il y a des fétichistes, peut-être.
Peut-être.
Une fois qu'elles sont recyclées, on va leur donner une nouvelle vie. Vous avez donc une usine qui se trouve à Commentry, dans l'Allier. Et ma petite pile, elle arrive là-bas. Après, qu'est-ce qu'elle devient?
Alors, vous allez dans votre supermarché, vous allez avoir des piles, mais vous allez avoir dans le bac des cartouches imprimantes, des cartouches, des ampoules.
Des ampoules, il y a un doux mélange là. Oui.
Des cartouches de chasse, des fois, on retrouve même des cartouches de chasse.
Oui. Il y a du cuivre.
Il y a de la poudre aussi. Donc il va falloir les trier. Donc on passe par des centres de tri. On en a 4 en France qui vont permettre de remettre les bonnes piles au bon endroit pour faire des lots qui vont pouvoir être recyclés. Nous investissons actuellement sur une nouvelle usine qui va permettre de retraiter l'intégralité des métaux dans les piles. Donc 100% de valorisation et surtout zéro déchet émis à la sortie de ce procédé.
Et donc vous récupérez du manganèse, du cuivre, du cerium, du zinc, du fer, du nickel. Donc on peut refaire après des gouttières, on peut refaire des couverts, on peut refaire plein de ferro-alliage comme on dit, etc. C'est infini quoi après.
Oui, et donc à partir de là, effectivement, ce soir, quand vous rentrerez chez vous, vous prendrez votre cuillère, vous direz tiens... il y a un petit peu d'inox, il y a un petit peu de nickel, une partie de la pile est à l'intérieur de votre cuillère.
Stéphane Jorlet, vous parlez de four, c'est-à-dire que les piles, elles arrivent directement, après elles sont brûlées, c'est après qu'il y a un tri, comment ça se passe?
Alors, contrairement aux autres technologies où nous broyons les piles, où la partie des métaux va être partiellement recyclée, l'autre partie va partir en décharge, nous mettons directement la pile dans le four.
On la fond.
On la fond et on récupère l'intégralité des métaux sous forme de ferroalliage ou sous forme de partie un petit peu plus légère en surface de laitier qui va nous permettre également d'être valorisé dans nos propres usines.
Et la partie ultime, qu'est-ce que l'on en fait?
Il n'y a pas de partie ultime. Les fumées, nous allons condenser le zinc qui est dans la fumée pour pouvoir le vendre pour faire des gouttières, par exemple. Et il n'y a zéro déchet généré dans ce procédé. Ce qui est un procédé unique en Europe.
Bon, donc on espère qu'il n'y a pas trop de pollution non plus du côté de Commentry. Donc, alors cette journée européenne du recyclage des piles donc, est organisée par Corépil. Et Corépil, c'est donc l'éco-organisme qui ne fait que ça, qui vit pile, qui pense pile, qui respire pile. Enfin voilà, c'est les piles. Chanson.
Check it. Pillow me swarm in each one of my palms. Black on every goddamn song for how long? Rap a lot, hot as a center block to capture. Pimp the way I'm rocking this house, we've only practiced. Turn every TV around to shout and shouting. Long Paul, kinky the flow, stay hands to Paris. Big dog in town, him clips the hound. Wolf arms whipping the pound, I'll shut him down.
I tried again, I tried, yet I'm stuck inside again. Well, I just lose and never win. No time to waste. No, 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 no time to waste. Oh, yeah. I'm holding on. I'm holding on. I'm holding on to all I am. Yes, I'm holding on. I'm holding on. I'm holding on to all I am.
Holding On, c'était Eclipse sur France Inter. Donc un jeune rappeur qui fait, comme vous le savez, du beatboxer. Autrement dit, il fait plutôt la rythmique. Hein. Il fait donc de la musique avec sa bouche. Et donc il a appris l'anglais. Il avait raison parce qu'il habitait Autun quand il était petit, ce garçon, donc en Saône-et-Loire. Très belle ville gallo-romaine. C'est très très beau. On est à l'entrée du Morvan. C'est très bien. Et voilà. Et donc c'est ce garçon-là qui s'appelle Eclipse aujourd'hui et que nous écoutons avec bonheur. Comme nous allons vous écouter aussi, vous, Frédéric Danhé. Vous n'avez pas été rappeur, vous, dans le Nord. Vous n'avez pas fait ça.
Non, désolé.
Hulot, donc notre ministre Nicolas Hulot, donc nous a annoncé donc la fin des forages d'hydrocarbures en 2040 en France métropolitaine et en Outre-mer, ce qui n'est pas neutre. On a 63 gisements aujourd'hui en Île-de-France et en Aquitaine qui font vivre à peu près 1500 personnes. Donc on est dans un signal, on l'a bien compris, comme on n'a que 1% si vous voulez de pétrole qui est extrait, on est dans un peu plus que symbolique, mais quand même.
Oui, on n'est pas un émirat pétrolier, sans on l'a compris.
Non, sinon on aurait racheté le PSG.
Si on aurait acheté le PSG et Neymar, bien sûr. Non, alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aucun permis ne sera autorisé, aucun nouveau permis d'exploration, d'exploitation ne sera autorisé à partir de la promulgation de la loi, on n'y est pas encore, et les autres ne pourront pas être renouvelés au-delà de 2040. Mais c'est surtout le symbole, vous l'avez dit. Derrière tout ça, il faut comprendre que ça correspond à ce qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, dont nous avons parlé, et dont personne d'autre n'a parlé, à savoir la fin des combustibles fossiles pour les véhicules automobiles à l'horizon 2040. Les deux dates correspondent. Voilà, le signe, il est le suivant. La France est en train de quitter progressivement son besoin de pétrole, son besoin d'essence, son besoin de diesel. Le signe politique est fort. Faut qu'il soit suivi par des résultats. Mais en tout cas, c'est moi, ça me semble important.
Et les 31 permis exclusifs de recherche qui sont en cours donc pour explorer, qui ont été délivrés par Ségolène Royal et soutenus par Emmanuel Macron, donc est-ce que ceux-là, on va les arrêter? Ça concerne le Grand Est, ça concerne la Guyane, au large de l'Afrique, aussi dans l'océan Indien et même dans les terres australes antarctiques.
Pour ce que je comprends de ce que j'ai lu, a priori, non, il serait pas remis en cause, vu qu'une loi n'est jamais rétroactive, donc a priori, on pourrait continuer au moins à voir s'il y en a. Mais si, de toute façon, la loi interdit d'explorer, ça servira plus à grand-chose.
Alors, il y a aussi donc les hydrocarbures gazeux qui sont contenus dans les couches de charbon qui, eux, ne seront pas concernés. Ce qui fait que vous avez des associations là qui montent un peu au créneau en disant bah oui, mais là aussi, ça va être autre chose. Donc,
Oui, ça c'est exploiter ce qui auparavant faisait exploser les mines. Hein. C'est le méthane qui est coincé dans les... mais qui peut être utilisé pour du chauffage urbain. Mais bon, voilà.
On rappelle qu'en ce qui concerne la loi énergétique, il s'agit quand même de baisser de 30% la consommation française d'énergie fossile d'ici 2030. Autre sujet aussi d'actualité, ça va vraiment nous concerner le 13 septembre, le CETA. Donc c'est le traité européen-canadien de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Donc le 13 septembre, Emmanuel Macron doit prendre une décision. Que dire donc autour de cela aujourd'hui qui n'est pas été lié, en tout cas voilà.
Écoutez, je n'ai qu'un mot à vous dire, mon cher Denis, c'est Aqua Advantage. Qu'est-ce qu'Aqua Advantage? C'est un nouveau saumon qui a été autorisé, un nouveau saumon OGM qui a été autorisé à la vente donc au Canada. C'est un saumon qui porte un très joli nom, très poétique. C'est un saumon américain qui, après 25 ans de négociations avec le Canada, se retrouve dans les hypermarchés canadiens. Ça veut tout dire. Au Canada, on peut vendre de l'OGM. Au Canada, on a une quarantaine de pesticides qui sont interdits en Europe. On peut utiliser des hormones et des antibiotiques pour faire grossir les vaches, les veaux, les poules, les cochons et à peu près tout ce qui marche sur des pattes. Voilà, c'est la vraie différence entre le Canada et l'Europe. Et donc, les professionnels de l'agriculture disaient depuis des mois et des mois, attention, parce que sinon, on va voir l'Europe submergée, en particulier la France, par de la viande qui coûtera pas cher, parce que là-bas, elle ne coûte pas cher à produire, qui entrera en concurrence avec nos produits, et une viande qui potentiellement contient des produits qui sont interdits en Europe. Et c'est bien ce qu'ont marqué les experts qui avaient été mandatés début juillet par Emmanuel Macron. Ils disent que globalement, on parle d'environnement et de respect des normes sanitaires, mais ça reste flou et surtout, il n'y a aucune citation explicite dans le...
Alors, en ce qui concerne le juridique, parce qu'en fait, on aura mis des années pour construire, on va dire, ces différentes normes. Alors, parfois, des gens vous disent, il y en a trop, etc. Oui, bon, mais qu'est-ce que ça peut donner d'un point de vue... C'est un flou juridique, là, pour savoir si...
Il y a un flou juridique. Alors,
si les entreprises ou bien les États pourront donc nous
normalement,
attaquer...
Normalement, c'est la grande peur. Les entreprises pourraient attaquer les États parce que des normes juridiques, des normes, par exemple, les AOP, les AOC, le label rouge en France, pourraient les empêcher de commercialiser leurs produits bas de gamme en France. Sauf qu'il y a un flou, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait flou. Et pour avoir lu le rapport des experts, pour avoir lu le rapport des experts, c'est quand même un peu inquiétant de voir des juristes professionnels dire qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. En tout cas, ce qui les inquiète aussi, c'est l'absence totale du principe de précaution. Il n'y a aucune mention du principe de précaution de l'accord de Paris dans l'accord CETA. Donc, ce qui ne manque pas d'inquiéter, enfin bref, mieux vaudrait que cet accord CETA soit renégocié. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'il est entré en partie en fonction. La seule chose que pourrait faire Emmanuel Macron, c'est de stopper son entrée en vigueur, ce qui voudrait dire qu'il se mettrait à dos une partie de l'Europe. Je ne sais pas si c'est ce qu'il cherche en ce moment, quoique, on ne sait jamais.
Alors, en ce qui concerne le saumon, c'est bien, ça va nous amener quand même maintenant dans notre cuisine. Et là, on va retrouver Anthony Cointre, c'est parti.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Eh bien, il va falloir les assommer.
Ouais.
Et les tuer, bien entendu. Voilà. Alors, pour les tuer, viens là, ma biche, viens là, ma biche, viens là. Là, il ne faut pas être en grande tenue. Hein.
Eh oui.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Tu ne remueras plus.
Sur France Inter.
Non, ça c'est sûr qu'elle ne remuera plus, la petite bête. On va donc rentrer dans la cuisine en saluant Anthony Cointre. Bonjour Anthony Cointre.
Bonjour Denis.
Donc toujours cuisinier emballant, ambulant.
Toujours, toujours,
et
de
alors,
plus en plus.
Notre axe principal, c'est de rappeler quels sont les produits de saison.
Oui, parce que si on veut bien cuisiner, il ne faut cuisiner qu'avec des produits de saison.
Légumes, on y va.
Alors, les légumes. Tu sais, c'est septembre. Oui. C'est les premiers froids. C'est la rentrée. On se dit, c'est pas festif. Pour se soigner, qu'est-ce qu'il faut? Bien manger. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en septembre, il y a beaucoup, beaucoup de produits.
Bah oui.
On commence par celui-là. Regarde ça, comment c'est.
Le maïs.
Cette turgescence jaune. Le maïs dans sa cosse, regarde. Okay. On l'enlève. Il y a des petits poils. Ça se mange aussi. On peut les frire. Donc, les poils de maïs.
Oui.
On les prend. Ah, ça sent le maïs, c'est ça qui est bien. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On le cuit juste un petit peu à l'eau. Soit, une fois que c'est cuit, on le passe délicatement dans le beurre pour le caraméliser. Ou autrement, avec le couteau, on l'incise, on l'enlève de la cosse. Et puis, on le mange comme ça, juste froid et tout. C'est magnifique, c'est la saison. Il faut y aller, regarde ça, comme c'est beau. Même cru, regarde ça, comme c'est beau. Il y a presque du jus dedans.
À côté, alors effectivement l'auxiliaire, on va dire presque du maïs, on a le haricot blanc.
Bien sûr, le haricot blanc, alors ça c'est les moments des haricots frais, bien sûr du haricot on en a toute l'année, mais ceux-là sont frais. Alors celui-là que j'ai dans les mains, c'est du coco maïs du Béarn, mais bien évidemment aussi celui qui est bien connu et puis plus de ma région, c'est le coco de Paimpol, qui est en appellation. On est en famille et tout le monde autour de la table et tout, c'est la veillée,
on se raconte, on écosse.
En Écosse, en France, les 20 kilos de coco de Paimpol ou de Béarn, on les sent pas passer, puis c'est sympathique, c'est un échange. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les cuit tout doucement avec un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, du thym, du laurier. Alors ça, je suis toujours pour la cuisson un petit peu sur le mi-cuit. Là, j'aime bien quand c'est un petit peu fondant, qu'avec la fourchette, tu peux juste écraser et tout ça, te faire une petite purée. Et ça, c'est vraiment magnifique, magnifique. Il y a le côté vraiment frais, malgré que ce soit du haricot sec. C'est vraiment très frais.
Oh, cucurbitacé.
Vous avez le pâtisson jaune, le pâtisson blanc, les mini pâtissons. Moi, je trouve ça superbe. C'est très goûteux. Ça fait partie, bien évidemment, de la courge. Donc, faut lui redonner un petit peu de goût, un petit coup de vinaigre, un petit peu de piment d'Espelette. Faut lui donner comme ça un petit peu de tonus. Mais c'est très soyeux. Très bien. Regarde, on va le bouffer. Regarde cette délicatesse. Donc, un petit peu de pépin à l'intérieur, mais que l'on garde. C'est très frais et tout ça. On le cuit à l'eau, juste un petit peu, Alors, la pointe du couteau, on voit comme ici, tu vois, hop, ça peut rentrer juste comme il faut. Donc ça, on sait qu'il est cuit. Et puis, voilà, on mange tout, on le passe comme ça, ou autrement, à l'huile d'olive ou au beurre.
Ça, vous allez voir ce que c'est que la bonne cuisine.
Tout le menu est au beurre. Broché beurre blanc, rayon au beurre noir, escalope beurre noisette.
Dites, mais l'huile ici, vous la mettez dans les moteurs d'automobile, non?
Et alors, septembre sans champignons, ce ne serait pas une séquence complète
donc... On est dans la forêt. On est là, regarde ça. Oui. Ça, c'est la chanterelle jaune. Alors ça, les champignons, jamais les nettoyer sous l'eau, parce que ça se gorge d'eau. Puis après, quand tu les poêles, ça donne tout. C'est pas intéressant. Donc là, juste les frotter. On poêle au beurre ici, qu'est-ce qu'on a? On a les trompettes de la mort. Donc ça, il faut juste les ouvrir un petit peu pour enlever ce qui reste encore de forêt dans ce magnifique champignon. Autrement, bien évidemment, on a le cèpe magnifique. Alors là, on n'est pas, faut pas trop cuire. C'est juste, on le prend cru, on le coupe en deux et on le passe dans la poêle, juste comme ça, d'un côté, tout doux. Ça va juste cuire avec le jus du cèpe, un petit coup de sel comme ça. C'est encore croquant, c'est encore un peu ferme, mais c'est magnifique et souple.
La girole, elle est molle. La morille, pas gentille. Le pied de mouton, c'est pas bon. Le mycène est obscène.
Champignons, champignons, champignons. Champignons, champignons, champignons.
Est-ce que vous m'autorisez mon œil de Lautrec dans le Tarn?
Bien évidemment, mais pas trop, attention, voilà, oui. Ça tue le goût, parce que soit on aime l'ail et on mange de l'ail, mais s'il y a le cèpe, je suis d'accord, mais très très léger, c'est-à-dire comment on peut le faire pour que ce soit léger, on prend du beurre, pas mal de beurre, on écrase une ail de Lautrec, que j'adore, attention, j'adore l'ail, mais faut que ce soit avec parcimonie. Et donc, tu arroses, tu prends ta cuillère, tu arroses comme ça avec le beurre, et donc le beurre est imprégné du goût de l'ail, et qui imprègne à son tour le champignon.
On s'intéresse au poisson.
Je l'ai déballé tout. Qu'est-ce qu'on a sur les yeux? Regarde. Cette merveilleuse, attention, qu'est-ce que c'est?
Macro.
Oh, c'est du macro. L'avantage, qu'est-ce que c'est? On peut le manger cru, on peut le manger cuit.
Il coûte pas cher non plus.
Ah ben non, c'est un des poissons pas très chers. Ouais. Quand on le mange cru, ce côté luisant, cette petite peau avec le couteau, on l'enlève ou on demande à son poissonnier préféré, parce que c'est ça son boulot aussi, de vous conseiller sur le poisson et de prendre bien sûr du poisson entier, parce que là on a bien la couleur, on voit l'œil, on voit les ouïes et tout, donc faut toujours prendre du poisson entier plutôt que du filet, mais après on lui demande de mettre en filet bien évidemment. Et là aussi on lui demande de faire quoi? On lui demande de le faire en portefeuille. Qu'est-ce que c'est en portefeuille? C'est-à-dire que au lieu d'enlever complètement le filet, on le laisse attacher sur le dos, il enlève l'arête centrale, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un bon jambon, on le passe au four, un peu de moutarde, une cuillère de moutarde
dedans,
à l'intérieur,
oui.
Quand il est en portefeuille, c'est-à-dire qu'il est encore, on le referme, et on est parfait, on a un maquereau au jambon et à la moutarde.
Ça, je connaissais pas ça, c'est tout simple.
Exactement, c'est ça que j'aime bien.
Autre poisson.
Autre poisson, alors là on est là, on est là, on est là, qu'est-ce que c'est? Plus délicat. Mais tout à fait excellentissime, le rouget barbé. Le rouget barbé, alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en cuisine et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce que c'est un poisson délicat. Et c'est un poisson, quand on arrête de le cuire, il continue à cuire.
Ah oui.
Il est comme ça, le rouget barbé. Il ne se laisse pas faire, il est comme ça. Et aussi, pourquoi il est délicat? Avec les écailles, comment on fait? C'est sous l'eau, un petit filet d'eau. On enlève les arêtes comme ça avec le doigt.
Avec le doigt.
Tu vois? Mais ça, on ne peut pas le faire au couteau parce qu'autrement, on abîme la peau, on abîme la chair, vraiment avec le doigt. On lève le filet, on enlève les arêtes centrales et ça, le poêlage à l'unilatéral. Pourquoi? Juste d'un côté, parce qu'on suit la cuisson, on voit comme c'est. On retire la poêle du feu, on retourne le filet, juste le temps de le servir, de le mettre dans l'assiette et c'est terminé. Là, c'est magnifique. Mais doucement, doucement, parce que le rouget continue à cuire quand on arrête la cuisson.
Anthony Cointre, des fruits, bien sûr.
Attends, regarde ça.
Oh,
quand tu les appelais, ils bougeaient, tu les entendais même pas.
Dis donc, là, c'est un bouquet de crevettes.
C'est un bouquet, alors le bouquet royal, vivant encore, donc transparent, poêle chaude. Alors, c'est sûr, hein, on les fait un peu souffrir.
Oui.
Mais bon, faut leur demander l'intégration. Merci de vous sacrifier pour moi. Merci de nous donner ce bon goût. On le poêle juste très rapidement. Il va changer de couleur. Il va devenir rose, comme là, tu les vois. Mmh. Maintenant, ça y est, ils sont roses. Et puis, juste les déglacer avec une petite, soit un petit calvados, soit une petite goutte de whisky.
Fondu dans ma paillotte au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Allons-y sur les fruits, nous avons des pommes, des pois,
bah,
des
bien sûr,
pêches, des figues.
La poire au vin, avec un petit peu de cannelle et puis un petit peu de badiane. Mm-hmm. Juste comme ça, on la laisse cuire gentiment.
Fleur de badiane, ok.
Fleur de badiane, ça j'adore.
La pêche de vigne.
Qu'est-ce que c'est doux, Denis? C'est doux, c'est vraiment très doux. Et c'est magnifique. Pareil aussi, on peut la faire en compote, on peut la faire en tarte. C'est très goûtu. Une chair un petit peu granuleuse, mais tellement bonne. Regarde ça. C'est vraiment avec ce côté blanc et ce côté rouge, comme ça, sanguin et tout. C'est magnifique. La figue. Alors ça, moi, j'adore. C'est vraiment là, ce qu'on appelle le fruit du soleil. Juste dans une poêle, avec un jus de pomme. Tu mets juste un brin de romarin que tu laisses comme ça compoter sans les bouger, tu les mets juste comme ça debout et tout, ça va cuire tout doucement Et là, tu les prends comme ça. Pas de sucre, bien évidemment, parce que la figue en contient déjà suffisamment. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et là, c'est vraiment super. Tu peux servir ça même avec un filet de canard ou en dessert, oui, avec un bon fromage blanc fermier ou les crus.
Grand merci pour cette ronde de produits de saison, c'est Anthony Cointre. Et puis on vous retrouve très bientôt.
Eh bien, j'espère, quand vous voulez. Et n'oubliez pas, pour vous remonter le moral, oui, cuisinez les bons produits.
Anthony Cointre, cuisinier emballant et ambulant, merveilleusement réalisé par Xavier Pestudier. Alors, on ne fait pas concurrence à François Régis Gaudry, nous, non, pas du tout. D'ailleurs, vous le retrouverez demain sur France Inter, bien sûr, à 12h. Simplement, c'est vrai qu'on aime bien suivre comme ça, allez, tous les mois et demi, les fruits, légumes de saison, les produits, parce qu'on a un petit peu oublié, on s'est rendu compte de cela avec des jeunes et des moins jeunes, donc ça ne peut pas faire de mal d'avoir ces piqûres de rappel. Pour faire cuire sous ces aliments, il nous faut du gaz. Pour du gaz, il nous faut un métal. Je ne sais pas si vous voyez l'enchaînement redoutable, toujours sur l'actualité, hein, avec Frédéric Danhé. Et donc, cet été, donc un méthanier a franchi donc le passage du Nord-Ouest. Racontez-nous.
Du Nord-Est.
Du Nord-Est, pardon.
Alors, ce méthanier s'appelle le Christophe de Margerie, du Nord, l'ancien patron de Total. Le bateau avait été baptisé en grande pompe par Vladimir Poutine. Il est le premier de 15 nouveaux méthaniers brise-glace. Et ce qui est intéressant, c'est que, il a pu aller de Norvège en Corée du Sud pour livrer donc du méthane sans l'assistance habituelle des brise-glaces soviétiques. Un, parce qu'il est équipé brise-glace, mais deux, surtout parce que depuis le temps, depuis un premier essai en 2012, eh bien l'épaisseur de la glace n'a jamais cessé de diminuer. Donc c'est bien le signe qu'un changement climatique s'installe.
Et donc ça leur évite de passer par la case canal de Suez.
C'est ça, donc ils gagnent 15 jours à peu près. Et c'est voilà, c'est très révélateur. Le grand armateur chinois Cosco, qui est le quatrième du genre dans le monde, estime que d'ici 2025, il pourra faire passer ses porte-conteneurs. Et d'ailleurs, la Chine a investi sur le port de Yamal, qui est à peu près au milieu de la côte sibérienne, un port méthanier qui va ouvrir bientôt et qui a vocation à alimenter l'Europe et l'Asie du Sud-Est en méthane, en passant par l'Arctique et non plus du tout, sauf en hiver évidemment, par le canal de Suez. Derrière tout ça, on a bien la Chine qui investit beaucoup, mais on en reparlera dans une autre émission. C'est le programme La Route de la Soie qui vise à passer notamment par le train, pas seulement par des méthaniers, par le train, entre la Chine et Duisbourg en Allemagne, et cette route qui faisait rire avant ne fait plus rire.
Non, parce que ça marche.
Et ouais, ça marche beaucoup. Le port de Duisbourg allemand a contacté le port de Strasbourg pour évacuer les containers qui n'arrêtent plus d'arriver depuis la Chine. Voilà.
Alors donc, de l'eau salée, on va passer de nouveau à l'eau douce. On va revenir en France avec la semaine prochaine, c'est aussi l'actualité dont on parle très peu, celle qui n'est pas exactement dans les rétroviseurs. La marche pour l'eau, on va rejoindre Marie-Thérèse Petit. Donc une marche sur l'eau, non pas sur l'eau, mais pour l'eau, pardon. Non, sur l'eau, c'était quelqu'un d'autre. Dans le Cher, du côté de Bourges. Pourquoi cette marche ?
Il faut savoir d'abord que la qualité de l'eau dans le Cher est quand même très préoccupante. Ensuite, on s'est dit comment faire pour impliquer les gens. Il fallait aller sur le terrain. Donc, on a mis en place cette marche qui était parfaitement adaptée. Et puis, pour tout vous dire, on s'est quand même inspiré du livre de Naomi Klein, Tout peut changer si les gens se mobilisent vraiment.
Alors, Marie-Thérèse, ce qui est important, oui, c'est que vous parlez effectivement de qualité qui est désastreuse de l'eau. Il faut juste rappeler que lorsqu'on habite, par exemple, à Bourges, eh bien, on tire pratiquement 70 km de tuyaux pour essayer d'avoir de l'eau potable du côté de la Loire. Alors, pourquoi ? Parce que vous êtes environné d'une agriculture extrêmement intensive.
Et tout à fait. Et ça n'est pas que ça encore. Il faut savoir qu'on va de fermeture en ouverture de captage, toujours à cause de la pollution. La ville de Mehun-sur-Yèvre en est quand même à sa troisième dérogation, c'est-à-dire que pour la troisième fois, on autorise les habitants à boire de l'eau impropre à la consommation. L'Agence régionale de la santé nous annonce que l'eau de surface est contaminée. Et pour terminer l'affaire, suite à un rappel à l'ordre de l'Europe, pratiquement tout le département du Cher est classé en zone vulnérable nitrate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pollution, si vous voulez, se trouve à trois niveaux, au souterrain, au superficiel et risque d'eutrophisation marine.
Alors ça, c'est pour les constats. On sait qu'il y a évidemment des villes, une des plus anciennes, c'était il y a plus d'un siècle, la ville de Munich, mais on pourrait parler de Lons-de-Saunier, on pourrait parler aussi de Grenoble, qui ont mis en fait les agriculteurs aussi autour de la table et puis qui ont, on va dire, investi, aidé à des passages en bio pour que les zones de captage soient plus propres. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Nous, ici, dans le Cher, rien. les politiques appliquent une fuite en avant en permanence. Et c'est ce qu'on attend, nous, en tant qu'habitants, on voudrait mettre ça en place. On voudrait envoyer un message très fort aux politiques pour qu'ils changent absolument de politique et qu'ils nous invitent autour d'une table. Voilà ce qu'on attend.
Un grand merci à vous. Et donc, ça va se passer jeudi, vendredi, samedi. On vous renvoie donc sur le site de CO2 Mon Amour. Vous aurez toutes les informations. Et puis, un grand merci à vous, Marie-Thérèse Petit. À bientôt.
Merci, Denis. À bientôt.
Ben voilà, donc une association qui se bouge pour la qualité de ses eaux. Il y a encore un petit peu de taf. C'est le moins que l'on puisse dire. Tenez, un autre message. 01 56 40 40 35.
Ce week-end, c'est Biozone, la grande foire biologique à Mur de Bretagne. Comme d'habitude, vous pourrez voguer parmi les 200 stands de producteurs, artisans, commerçants et associations qui œuvrent dans de nombreux domaines tels que l'alimentation, l'habitat, le jardinage, etc. Cette année, le thème de Biozone s'intitule « Éduquons-nous ». En cette rentrée, on va donc parler d'éducation alternative, d'instruction à la maison, de communication non violente, d'éducation à l'environnement, d'éducation populaire. L'ensemble du programme est visible sur notre site internet foire-biozone.org. À ce week-end, à Mur de Bretagne, à la foire Biozone.
Et voilà donc Biozone, c'est Mur de Bretagne, vous le savez, 01 56 40 40 35, c'est le numéro du répondeur. Le site, vous en avez l'habitude, hein, là aussi, avec différentes informations. Anne Gouzon donc nourrit les sites de CO2. Il y a aussi d'ailleurs son Twitter Initia Verte, qui est tout à fait intéressant et inspirant. Merci cher Frédéric Denré.
C'est Denis Gessou.
Semaine prochaine, vous serez avec nous à la fête de l'Huma.
Mais bien sûr, je vous parlerai peut-être d'une petite forêt polonaise si on a le temps. Puis on parlera de tomates et
bio, tout. Oui. Oui, on peut parler de plein de choses, il y aura l'actualité, il y aura tout ça, donc vous reviendrez, donc on vous attend donc à la fête de l'humanité. France Inter est donc partenaire, il y aura Jean-Baptiste Mallet donc sur l'Empire de l'or rouge. On retrouvera aussi donc notre tomate du côté de la Bourdaisière. Voilà, donc ça va être un peu le fil rouge si j'ose dire, la fête de l'humain,
c'est
très, 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 très amusant. Allez, merci à Camille Blanès, merci à Xavier Pessugia qui réalise l'émission, à Julien Michel et Théo Gomard qui étaient aujourd'hui à la technique, Muriel Pérez qui a choisi les disques. Rediffusion entre 5h et 6h du mat ce dimanche. Les petits bateaux, et oui, derrière, ce sera la tuile du Mon Petit Loup à 19h54 demain. Vous savez presque tout.